Vivre FM podcast.
Au plus près de la recherche, jusqu'à 11h sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Ils et elles sont ergothérapeutes, chercheurs, sociologues, psychologues ou présentent des troubles obsessionnels compulsifs. Et ils ont décidé de concevoir ensemble des outils d'évaluation environnementaux qui seront utiles pour améliorer la qualité de vie des personnes présentant des TOC. Et donc, c'est une recherche expérimentale qui est menée in situ à domicile et qui vise à comprendre les interactions complexes qui existent entre la personne qui vit avec des TOC et son environnement de vie. Les chercheurs de AltoTOC vont s'intéresser non pas donc à des traitements médicamenteux, mais aux moyens qui permettront de compenser les handicaps générés par les TOC, et cela notamment grâce aux technologies mobiles connectées. Alors ça y est, vous êtes ferrés, vous voulez en savoir plus parce que, comme moi, vous avez besoin de remonter chez vous 3-4 fois pour vérifier que la porte est bien fermée. Eh bien, restez à l'écoute, nos invités ont des choses passionnantes à vous raconter.
Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Et bienvenue donc dans Au plus près de la recherche autour des micros. Aujourd'hui, nous avons Andrea qui est participante à la recherche dont nous allons parler et qui est une personne présentant des TOC, me semble-t-il en tout cas. Nous verrons que ce n'est pas forcément évident. Et puis nous avons Yannick Hing qui est enseignant dans un institut de formation à l'ergothérapie. Et tous deux nous font le plaisir de venir nous parler d'une recherche organisée par un collectif, en tout cas un groupe qui s'appelle AltoTOC, dont nous en dirons un mot dans un instant. Mais avant même cela, on va peut-être commencer par définir les TOC, troubles obsessionnels compulsifs. C'est un mot que souvent les gens connaissent ou croient connaître, en tout cas. C'est vrai que, je le disais en intro, un peu sous forme de provocation, dès qu'on retourne fermer sa porte 3-4 fois, on se dit « Ah, ça y est, j'ai un TOC », un petit peu en rigolant. Il se trouve que c'est en général des troubles particulièrement invalidants pour les personnes concernées et ça concernerait quand même autour de 3% de la population. Donc c'est pas un sujet à prendre à la légère, même si je me suis permis de le prendre un petit peu à la légère pour détendre. Mais donc les TOC, obsession, compulsion, comment on peut expliquer simplement à nos auditeurs de quoi il en retourne ? Ah, peut-être Yannick pour commencer.
Oui, donc du coup, les TOC, c'est, parfois c'est minimisé par la population. C'est vraiment un trouble de la santé mentale ou de la psychiatrie qui sont définis par deux séries de symptômes. Il y a d'une part du coup les obsessions et d'autre part les compulsions. Donc les obsessions, c'est plutôt l'arrivée dans la pensée d'idées ou d'images déplaisantes ou angoissantes. Pour les personnes, ça peut être la peur d'être contaminé par des objets qu'on va toucher ou la peur de chuter lorsqu'on est au bord du métro. Donc ça va être ce type de manifestation. Et d'autre part, on a les compulsions, qui sont plutôt des comportements irrépressibles que la personne ne peut pas s'empêcher de réaliser, même si elle en reconnaît le caractère absurde ou excessif. Donc on peut avoir des personnes qui vont récurer tous les jours une partie de leur mobilier ou ils vont se brosser les dents avec de l'eau de Javel, même si le caractère est vraiment impressionnant et qui peut du coup avoir un déchaussement des dents, elles sont obligées de les réaliser.
On va classifier, on va utiliser le terme TOC, c'est parce qu'il y a un handicap qui est généré du fait de ces compulsions et de ces obsessions et qui va bien au-delà de juste perdre 10 secondes parce qu'on est allé vérifier si on avait fermé sa porte.
Exactement, donc on peut tous parfois se reconnaître en disant bah tiens, j'ai des petits TOC. Donc il y a ces petits TOC là qui peuvent illustrer ou qui représenter une grande partie de la population, parce qu'à 3%, ça correspond à presque 1 million de personnes en France. Et on a des personnes qui ont des TOC modérés voire beaucoup plus sévères. Donc ça, il y a des échelles du TOC qui s'appelle la Y-box, et dans cette échelle là qui est à peu près qu'à 40 points, les personnes vont pouvoir se répartir avec l'aide d'un psychiatre qui va pouvoir mettre un diagnostic. Donc on identifie à travers cette échelle là 7 obsessions différentes. Donc ça peut être de l'obsession de collection, les obsessions à thème agressif ou des obsessions religieuses. Donc c'est des personnes qui vont plutôt mettre beaucoup de valeur à la notion de blasphème ou de religion. Et on a 6 compulsions, plutôt des compulsions de lavage, de vérification, de comptage. Et donc les personnes vont pouvoir faire un profil des personnes qui ont des TOC.
Andrea, du coup, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette définition, dans ces explications que nous donne Yannick ? Est-ce que vous considérez comme une personne ayant des TOC, justement ?
Oui, tout à fait. En fait, surtout dans les TOC de lavage et de contamination, je me reconnais là-dedans. Parce que voilà, je suis atteinte de TOC de lavage. Enfin, je supporte pas qu'on me touche. Si quelqu'un me touche, je vais me laver ou je vais laver ma veste. Ou même le cuir, par exemple, si il faut que je le mette dans un Vous savez, dans un vestiaire, le cuir, il va passer à la machine à laver, des choses comme ça que les gens ne peuvent pas forcément faire. Ou alors laver mon sac à main avec des choses à l'intérieur, et ou laver par exemple tout simple un stylo que j'achète, il faut que je le passe à l'alcool et que après je le lave pour pouvoir l'utiliser.
Et le plus embêtant du coup dans cela, est-ce que c'est le fait d'avoir l'impression de faire quelque chose qui est un petit peu absurde, mais pour vous c'est obligatoire de le faire? Est-ce que c'est le regard des gens? Est-ce que c'est au contraire l'absence de regard? Parce que c'est vrai que c'est un handicap qui peut être visible ou invisible selon comment on le vit. Qu'est-ce qui est le plus compliqué du coup? La perte de temps la...
Oui, la perte de temps. Oui, la perte de temps. Parce que finalement, je suis assez discrète. J'essaye que les gens y voient pas. Donc, je suis dans mon monde et pour moi, c'est normal. C'est comme si c'était une vie normale.
Et quand vous dites j'essaye que les gens ne le voient pas, c'est parce que vous avez peur du regard que portent les gens sur les tocs. C'est ce qui est d'ailleurs un peu contradictoire, parce que souvent quand on entend parler de tocs, ça fait un peu sourire les gens. C'est-à-dire c'est quelque chose qui prenne de façon, on a l'impression légère, et en fait pas tant que ça. C'est
oui, c'est-à-dire j'ai vu des amis qui le savent et tout ça. Après ils rigolent beaucoup avec moi et ils se moquent de moi, mais en rigolant. Mais c'est gentil, mais et moi aussi je rigole parce que je vois l'image que je donne et ils m'imitent. Par exemple, s'ils veulent m'embrasser, je me mets en arrière. Et donc voilà, et pour eux c'est pas normal. Et c'est instinctif, on va dire.
Mais est-ce que vous l'expliquez? Quand vous êtes rentré dans le studio, je peux raconter à nos auditeurs, moi, voilà. Je vous ai tendu la main, c'est vrai que c'est assez machinal comme geste.
Oui.
Est-ce que du coup, vous vous êtes dit, ah mince, et je la serre quand même? Est-ce que...
Voilà, oui, j'ai pensé à ça, même si c'est horrible, désolée.
Non, mais, c'est pas
horrible. Mais pour moi,
tout,
cette main, ça y est, elle est contaminée. Donc, j'ai fait attention à ne pas toucher mes choses de mon sac et tout ça. C'est ça qui est embêtant, parce que parfois... On aime la personne qu'on a en face ou mes amis et tout ça, et le fait de par exemple de me serrer la main, je peux plus prendre mon téléphone par exemple. Il faut que j'aille me laver d'abord pour prendre mon sac et mon téléphone.
Et est-ce que du coup vous vous freinez à chaque fois, vous dites pas est-ce que ce serait plus simple que je dise à la personne non, excuse-moi, je ne vais pas te serrer la main parce que j'ai peur d'une contamination. Ce serait trop long à expliquer. Là. Dans ce cadre-là, on a peur du regard des gens et vous préférez vous dire, allez, je prends sur moi et tant pis, j'irai me laver la main derrière.
Voilà, oui, je prends sur moi parce que je ne vais pas leur imposer ça. Et de toute façon, mes amis le savent en général, mais parfois, ils font exprès de me prendre dans les bras. Mais moi, je ne veux pas. Et du coup, comme ils m'ont pris dans les bras, je dois laver la veste.
Les amis ne sont pas toujours très, très fins. Bon, voilà. Et alors, ce qui est intéressant dans le cadre de la recherche menée par Altotoc, c'est que vous n'allez pas vous intéresser aux traitements médicamenteux qui existent pour des TOC plus ou moins sévères, notamment les thérapies cognitives comportementales ou de la pharmacothérapie. Mais ici, ce qui va vous intéresser, c'est complémentaire, en fait, et c'est comment on va aider donc des personnes comme vous, Andrea, à mieux vivre, notamment chez elles, donc dans leur vie quotidienne, avec ces handicaps générés par les TOC, qui sont donc la plupart du temps beaucoup de la perte de temps, d'après ce que j'en comprends.
Oui.
C'est ça, en fait, il y a à la fois comme situation handicapante, il y a la perte de temps, il y a aussi tous les efforts cognitifs que ça demande justement à gérer leur rituel, à être dans des situations d'évitement, et ils ne trouvent pas assez des situations de stratégie pour pouvoir adapter leur vie quotidienne avec la particularité du TOC. Parce que le TOC, on peut aussi le considérer comme une particularité, comme une autre, et pas forcément comme un handicap, même si on voit d'un point de vue du diagnostic, c'est quand même quelque chose qui va être handicapant pour les personnes. Ce que dit aussi souvent Andrea, c'est qu'en fait, elle, c'est elle qui a une forme de normalité, et c'est tous les autres qui sont pas normaux, parce qu'ils ne se lavent pas les mains, parce qu'ils vont pas forcément utiliser une lingette dès qu'ils vont toucher un aliment ou un objet. Donc ça, c'était intéressant de pouvoir aussi le considérer autrement. Et que par rapport aux stratégies thérapeutiques, comme vous le disiez, c'est qu'il y a les traitements pharmacologiques, il y a le suivi psychologique ou psychiatrique par des techniques cognitivo-comportementales. Il y a aussi des nouvelles innovations thérapeutiques avec des stimulations cérébrales profondes ou transcrâniennes. Donc là, on est vraiment sur des choses beaucoup plus expérimentaux. Et nous, on a une démarche plutôt de dire, on va pas essayer de guérir la personne, c'est pas ça notre enjeu, mais on va essayer de l'aider à pouvoir vivre avec ses TOC, avec ses particularités, en lui facilitant la vie avec des petites choses du quotidien ou pas des choses trop complexes, parce que plus c'est complexe, plus c'est difficile à modifier ses habitudes de vie.
Et comme souvent dans le cadre de la santé mentale, vous adoptez donc une approche, enfin quand je dis comme souvent, en tout cas de plus en plus aujourd'hui, c'est une approche d'empowerment, de rendre à la personne ses droits de citoyen, de lui faire reprendre le pouvoir sur sa vie, le contrôle de sa vie et trouver ses solutions elle-même. Et c'est ça qui fait que justement cette recherche est menée de pair par des ergothérapeutes, des psys, des chercheurs, mais aussi des participants, donc des personnes atteintes de TOC. Et je crois que vous avez un mot pour les définir dans le cadre de cette recherche, justement.
Donc ça, c'est vraiment l'identité d'une de nos recherches, qui est du coup portée par Margot Morgiev, qui est psychologue et sociologue, et Xavier Briffaut, qui est épistémologue et sociologue aussi, qui sont vraiment mis dans la continuité de cette logique et concept d'empowerment, de pouvoir faire une recherche participative et concrète hein, pour essayer de modifier le quotidien des personnes. Et ils ont pu élaborer, puis moi je suis venu aussi à m'intégrer dans ce projet de recherche, la notion de statut de participant expert-chercheur. On va vraiment laisser une place en tant que chercheur aux participants de l'étude. Donc on n'a pas fait une étude avec beaucoup de participants, on a vraiment fait plutôt un suivi longitudinal sur plusieurs années. Et il nous a fallu avoir une méthodologie de recherche pour déjà apprendre à se connaître, pour qu'il y ait une relation de confiance et que la personne puisse aussi s'exprimer, qu'elle ait un vrai espace d'expression, mais aussi un vrai espace pour proposer des solutions et pas que les solutions viennent seulement de nous parce qu'on est souvent à côté.
C'est ça, Andrea, qui vous a motivé à participer à la recherche, c'est la prise en compte de votre parole en tant qu'experte, puisque vous vivez vous-même ces TOC, donc pour le coup, vous savez de quoi vous parlez.
C'est-à-dire, et le fait de peut-être voir des solutions qu'ils peuvent apporter, et que moi, forcément, je suis dans mon monde et très enfermée, parce qu'il faut savoir que c'est vrai qu'il y a des fois, pour éviter de sortir ou de me laver trop les mains ou les lingettes, par exemple, quand je prends la porte juste d'en bas pour ouvrir ma porte d'entrée, je suis restée enfermée pendant 4 jours pour ne pas avoir devoir me laver les mains, prendre la lingette et tout ça. Donc j'ai resté enfermée. Eux, ils m'ont un peu ouvert à sortir et à voir le monde un peu plus.
Recherche et partage jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Andrea nous racontait à l'instant être restée enfermée 4 jours à cause des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs dont vous souffrez, en tout cas que vous avez, et c'est pas forcément facile de temps en temps, j'ai l'impression. Ça a servi ces 4 jours d'enfermement, ça a créé un déclic, c'est comme ça que vous êtes arrivé à entrer en contact avec la recherche Alto-TOC, peut-être suite à un épisode un peu plus costaud, on va dire, que d'habitude.
Non, c'est-à-dire que c'est un ami qui a vu que j'étais vraiment en difficulté et parce que j'arrivais pas à toucher les gens ni qu'ils m'embrassent et j'évitais tout contact. Et donc il m'a dit de consulter ce médecin, docteur Benzina, qui était connu pour ça. Et suite à ça, le docteur Benzina, il a vu que j'étais vraiment enfermée dans mon truc et que je pouvais même pas recevoir des gens. Je peux plus recevoir des gens depuis des années. Et donc, il m'a aidée à faire une thérapie un peu cognitive, on va dire. Et ils m'ont présenté donc l'équipe de l'ICM, qui a été pour moi la première fois où j'ai pu recevoir des gens. Alors qu'au début, j'ai évité. Ça a mis peut-être un mois avant que je puisse les recevoir. Et le fait qu'ils viennent chez moi avec tout le protocole, parce qu'ils ont été vraiment incroyables dans le sens où ils ont suivi mes
informations. Vos recommandations.
Voilà, mes recommandations et tout ça. Et ça m'a aidé un peu à m'ouvrir au monde et à que quand ils viennent plusieurs fois maintenant, c'est un peu moins dramatique qu'avant.
Donc c'est via un docteur qui vous a orienté
voilà.
Vers le collectif du coup Alto-TOC. Donc peut-être avec vous Yannick un mot sur ce collectif et l'historique un peu de cette recherche parce qu'on est déjà bien avancé on va dire.
Donc effectivement c'est un projet qui a commencé il y a 4 ans et dès le début du projet il y a eu vraiment une volonté à la fois de porter la parole et trouver un espace pour les participants comme dans ce statut de participant expert chercheur mais aussi d'avoir une équipe plurielle mêlant des chercheurs en sciences humaines et sociales mais aussi des cliniciens parce qu'on est quand même dans une recherche clinique auprès de pas de patients mais de participants qui présentent des TOC et avec des profils hybrides. On n'est pas trop habitué dans la recherche en France à avoir ces profils hybrides, donc avec une psychologue sociologue qui est Margot Morgiev, avec un philosophe et un sociologue qui est Xavier Briffaut. Moi, je suis ergothérapeute et du coup candidat au doctorat en sociologie. Et on a aussi des dans cette équipe plurielle d'autres personnes qui gravitent autour et de façon assez proche des thérapeutes, des psychiatres qui sont formés à de la TCC, un petit peu dans la continuité de notre projet de thèse. Il y a aussi des neuroscientifiques qui vont aussi avoir une compréhension du fonctionnement du cerveau, puisqu'on est quand même dans une compréhension neurologique du TOC, où il y a un manque de capture d'une hormone qui s'appelle la sérotonine, et par une région du cerveau qui s'appelle les ganglions de la base, qui sont le siège d'une capacité cognitive qui s'appelle la flexibilité mentale. Donc la flexibilité mentale va empêcher une personne à dépasser son envie irrépressible de faire un rituel, donc c'est là où ça bloque. Et ce manque de capture de sérotonine va du coup augmenter la sévérité des troubles. Et on avait aussi l'attachement, dans une recherche participative, d'intégrer dès le début du concept du projet les associations de patients pour une représentation, pour aussi avoir une ligne éthique de notre projet, parce que l'idée, c'est qu'on ne fasse pas une recherche et puis avec les auteurs de la recherche, ben, on laisse les participants, entre guillemets, dans un flou. Donc c'est pour ça qu'on a fait une recherche plutôt assez longue, longitudinale, avec un pool de patients assez réduit. Donc on était entre 4 et 5 participants qu'on a suivis sur plusieurs années. Il y a eu des fois aussi des abandons de ces participants pendant le programme de recherche, mais ils n'étaient pas du tout obligés d'aller jusqu'au bout. C'était aussi ça qui était important pour nous, c'est de dire on vous suit, on essaie de vous accompagner le mieux possible. On essaie toujours d'intégrer aussi les thérapeutes dans le programme de recherche, qu'on est dans une approche complémentaire, mais qui n'est pas du tout antinomique avec le travail qui est fait par des thérapeutes qui font une thérapie TCC. Et lorsqu'on met en place des dispositifs techniques ou technologiques, les participants gardent le bénéfice du dispositif que l'on a mis en place de façon personnalisée au domicile. Ça, c'était vraiment important. C'était limite un élément majeur dès le début. C'est que si on trouve des solutions qui marchent dans leur quotidien, les participants en gardent le bénéfice.
Et c'est vous l'avez très bien dit, donc il s'agit d'une recherche scientifique. Donc on est dans un cadre défini. Et vous parliez de ces interventions justement à domicile. Andrea nous disait, c'est comme ça un petit peu que vous êtes rentré dans la recherche. En tout cas, la recherche est rentrée à votre domicile, en l'occurrence.
Oui, tout à fait.
Et ça, c'était l'étape numéro un. Ils sont rentrés chez vous. Vous avez eu des discussions, bien sûr, mais ça a été la première étape, rentrer dans votre appartement. Et ils y ont fait quoi ce jour-là? Vous avez fait quoi avec eux dans le cadre de la recherche?
On a beaucoup parlé, au moins pendant 3 heures. Ils ont mis en place, ils ont vu toutes les difficultés pour après éventuellement mettre en place des objets qui pourraient m'aider dans le côté.
Ils ont, alors je crois, et vous allez revenir, nous en dire un peu plus là-dessus, vous avez... avec l'équipe de AltoTalk, créer des outils, cartographier, topographier les habitudes de vie, donc celles d'Andrea et puis celles des autres participants. C'est-à-dire que vous avez noté dans le temps, dans l'espace, qu'est-ce qui se passait dans une journée d'un des participants et à quel moment il y avait des problématiques spécifiques. Et vous, voilà. Vous dans votre cas, ça vous a permis déjà de réaliser finalement l'ampleur peut-être de l'incidence des TOC dans votre vie quotidienne?
Oui, c'est vrai que oui. Le fait qu'ils soient venus et que j'ai dû raconter pendant 3 heures ce qui se passait, et je me suis rendu compte et voir que eux, ils sont normaux, entre guillemets, ça m'a un peu mis bouleversée dans le sens où je me suis dit que j'étais vraiment en dehors de la vie normale, si on peut dire. Mais en même temps, je suis normale parce que pour moi, c'est automatique. C'est un réflexe automatique. Et c'est un peu aussi aux gens que je suis tombée malade. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le fait qu'eux, ils soient venus chez moi, ça m'a mis un peu comme un miroir que j'avais des problèmes très handicapants.
Je rebondis juste sur ce que vous venez de dire, mais les TOC sont arrivés du coup petit à petit dans votre vie. C'est quelque chose qui s'est déclenché à un moment, sur le tard peut-être
ou... Oui, voilà, oui, ça s'est déclenché petit à petit. Et ça a augmenté quand je pense que j'avais un ami qui était vraiment violent et ça a augmenté les TOC. Parce qu'il faut savoir que le stress, quand on est en situation de stress, ça engendre et ça multiplie, ça décuple le TOC. Et aussi après, quand je devais travailler et que malgré les situations difficiles que je vivais à la maison, je devais aller travailler Et en plus, il y avait une femme qui allait aux toilettes et ne se lavait pas les mains et après elle prenait mes dessins. Alors ça a commencé à tout ça, ça a commencé à multiplier jusqu'à ce que ça soit irréversible.
C'est pas l'objet effectivement de la recherche, mais il y a souvent des éléments qui vont déclencher les TOC chez les personnes atteintes. Ils tombent pas du ciel entre guillemets les TOC.
Non, après la compréhension des TOC est plurielle, mettant à vraiment aussi a beaucoup changé, évolué dans l'histoire aussi de la santé mentale et de la psychiatrie. On a beaucoup parlé aussi du coup des névroses obsessionnelles depuis Freud. Là, on est vraiment dans un autre contexte avec une approche beaucoup plus neurologique de la santé mentale ou avec cette atypie de capture d'une hormone au sein du cerveau. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des facteurs qui vont pouvoir déclencher la manifestation de ces TOC de façon très prononcée. Alors, on peut avoir des situations, des enfants vont pouvoir déjà mobiliser des situations de rituels, mais les rituels seront pour beaucoup l'objectif de diminuer l'angoisse ou le stress. Donc, il y a eu des études qui ont pu être faites, notamment en France, où l'âge moyen d'apparition des symptômes sont plutôt à l'âge de l'adolescence. Sauf qu'il faut attendre presque 10 ans pour que les personnes commencent à s'engager dans un parcours de soins, donc aller voir leur premier psychiatre, leur premier psychologue. Donc, 10 ans, pourquoi ? Parce que c'est souvent une période où qui va se manifester par de l'évitement, où on va dissimuler ses propres rituels aux autres, avec un sentiment de honte, de culpabilité, et jusqu'à un moment où il y a la goutte d'eau qui va déborder, la situation est intenable pour les personnes, et là, elles se disent, comment je vais faire ? Et je vais aller voir, du coup, un spécialiste.
Alors, c'est comme ça qu'Andrea, effectivement, est rentrée dans cette recherche. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place différentes étapes. Donc un premier entretien à domicile pour comprendre un peu le fonctionnement de chaque personne individuellement. Ensuite, donc on l'a vu, cartographier, expliquer, en tout cas noter très précisément l'incidence de ces TOC dans la vie quotidienne. Et puis derrière, de nouveaux rendez-vous à domicile, des nouvelles rencontres pour voilà, échanger, trouver des solutions. Comment ça se passe à ce moment-là ? C'est Andrea, c'est vous qui dites, qui priorisez un peu, qui dites, voilà, c'est ce trouble et celui qui m'handicape le plus, c'est là-dessus que j'aimerais qu'on cherche des solutions ensemble. Qui décide de l'étape d'après ?
L'étape d'après, bon, on le fait ensemble. Mais c'est vrai ce qu'il disait Yannick tout à l'heure que au début, on n'a pas forcément l'envie d'aller consulter quelqu'un parce qu'on a honte. Et finalement, je conseille à tous ceux qui commencent à avoir des TOC de consulter tout de suite parce que moi, j'ai attendu 10 ans parce que j'avais honte d'en parler à un médecin et ça a fait que je suis tombée dans l'engrenage et ça a augmenté beaucoup plus. Et maintenant, voilà, ça m'a fait, mais en même temps, ça m'a fait rencontrer aussi l'équipe qui était géniale pour moi. Mais c'est vrai que si j'avais consulté avant, je ne serais pas tombée si bas, peut-être.
Mais voilà, les TOC ont du bon, du coup, vous avez rencontré AltoTOC.
Oui, voilà.
Et alors, du coup, vous avez priorisé, vous avez expliqué à l'équipe, et alors, voilà, vous avez dit, bah, moi, c'est mes problèmes, peut-être, mes compulsions de nettoyage qui me posent problème, le plus gros problème, en tout cas.
Oui, c'est le plus. Parce que, bon, il faut savoir que, par exemple, si il y avait une feuille qui tombait et tout ça, j'étais obligée de laver la feuille. Et
c'est
des choses, voilà, ce qui n'est pas pratique. Ou un dessin qui tombait, je le passais à l'alcool. Donc, c'est tout. Il fallait que je nettoie tout. Donc, c'est vrai que et ça a pris un engrenage dans plusieurs formes de vie. Même nettoyer l'argent, laver l'argent et des choses comme ça. Les billets, tout, c'était horrible. Mais bon, après, il y a des choses aussi que j'ai laissées. Et après aussi, le fait qu'ils sont rentrés avec des... Et que j'ai vu un peu, j'ai eu l'image du miroir de comment eux, ils se comportent. Ça m'a fait un peu faire un tilt de me dire, bon, il faut que j'ai cette image et que je garde l'image qu'eux, ils ont.
On va revenir sur on va parler des solutions apportées dans un instant. Mais avant même cela, le premier point positif aussi, c'était de vous dire, il peut y en avoir des solutions. Peut-être que vous imaginiez même pas que la situation était réversible, qu'il pouvait y avoir des outils, des façons de mieux vivre avec vos TOC, en tout cas de moins en avoir du coup.
Oui, ça c'est vrai. C'est vrai parce que par exemple, quand ils m'ont donné la pince pour ramasser les papiers ou les choses qui tombent par terre, il faut savoir qu'avant, je mettais des gants, je mettais au moins une demi-heure avant d'attraper la chose et me laver 3 fois les mains. Alors que là, bon, j'ai juste à prendre la pince et puis je jette et c'est tout.
La vie est simple comme une pince. On va y revenir dans un instant.
Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Et toujours avec Yannick Ng et Andrea, tous les deux chercheurs dans le cadre d'une recherche qui s'appelle AltoTOC. Et les TOC qui empoisonnent la vie d'Andrea, qui est avec nous, et d'autres participants et d'autres et personnes, beaucoup plus peut-être qu'on ne croit d'ailleurs. Alors vous le disiez à l'instant, Andrea, vous avez une pince grâce à cette recherche. Alors c'est une solution qui paraît toute bête comme ça, mais pour vous, pouvoir ramasser avec une pince, ça a été un gain de temps, ça a été du bien-être, ça a été une charge mentale en moins parce que ça demande, Yannick le disait tout à l'heure, beaucoup d'efforts de savoir qu'on doit mettre en place des stratégies, ne serait-ce que pour faire quelque chose qui paraît banal à la plupart d'entre nous. Et pour vous, c'était particulièrement important en plus de pouvoir ramasser des... Vous parlez beaucoup de feuilles, de dessins, de stylos. Les TOC ont eu un impact lourd du coup dans votre vie.
Oui, il faut savoir que j'ai dû arrêter de travailler parce que je supportais plus le contact des gens, ni prendre un simple stylo qui était dans un bureau. Donc, et c'est vrai que ça a eu un impact fort. Et j'ai dû arrêter donc de travailler. Et maintenant, grâce à Yannick qui m'aide à mettre en place tout un système de graphisme, et je suis en train de redevenir et de me réintéresser à la création. Parce qu'il faut savoir qu'après, j'ai complètement coupé aussi tout contact créatif et tout ça. Et maintenant, il me met petit à petit dans le bain. Et grâce aussi à cette équipe et le docteur Monzina qui m'a poussé aussi à me surpasser, ça me remet dans le bain et je vais de mieux en mieux. Ouais.
Donc il y a une double réussite, hein, c'est trouver des petits outils, alors connectés ou non, on va donner d'autres exemples après. Là, dans le cadre de la pince, ça peut être aussi des outils qui paraissent assez simples mais qui changent réellement la vie des personnes. Et puis une deuxième réussite qui va être dans un second temps que les personnes vont se réadapter ou se relancer dans une vie professionnelle ou autre.
Ça, en fait, c'est vraiment aussi dans l'identité du projet. C'est que on avait déjà fait un constat assez majeur, c'est qu'à l'ère des laboratoires de vie, les living labs, on avait une vraie volonté d'intervenir au domicile des personnes parce que c'est un environnement d'intervention et de recherche qui est difficile d'accès. Et c'est là où tout se passe. Parfois, on a des domiciles où les participants, ils en ont fait du domicile un sanctuaire de propreté où personne n'intervient. Pour Andrea, je crois que personne n'était venu depuis presque un an.
Non, plus.
Beaucoup plus qu'un an même.
Oui, du coup, 3-4 ans.
Voire 3-4 ans. Et pour d'autres participants, ça faisait jusqu'à 6 ans où personne n'était venu. Et nous, on vient. Et on vient parce qu'il faut déjà qu'il y ait une relation de confiance qui se fasse au préalable. Mais on vient avec tous les rituels dont ils nous font la commande. On a pu venir avec en touchant des boutons avec des gants. On a pu venir avec des tenues dites Ebola, ça veut dire qu'avec des charlottes, des surblouses, des gants, des surchaussons. Et à ce moment-là, on va faire nos premiers entretiens ethnographiques, on va discuter avec la personne sur quelles sont leurs difficultés du quotidien. Donc cette approche est vraiment dans une approche sociologique, mais aussi à la croisée avec l'ergothérapie. On va essayer de redonner une qualité de vie à ces personnes-là, donc aux personnes qui ont des TOC, en facilitant les occupations dans leur vie quotidienne, dans leur vie domestique, dans leurs activités professionnelles. Et comme Andreas, l'activité professionnelle occupe souvent une place très importante dans leur vie, mais aussi les loisirs, la sphère sociale ou encore l'environnement qui aussi agit beaucoup sur la manifestation des TOC.
Je vous invite à laisser vos yeux se fermer, à prendre conscience de votre corps dans sa globalité, à prendre conscience de votre respiration. Les sensations de votre respiration sont aucunement... Modifiez votre respiration, simplement inspire puis expire. Puis laissez vos oreilles.
Voilà, on chante ce petit son, mais c'est une technique de relaxation qui est utilisée. Alors, je vais quand même citer d'où vient ce son. C'est l'Institut Mindfulness qui a un site mindfulness.be. et qui fait de la méditation guidée. Et là, c'était la voix de Marjane Adabi. On a évidemment, parce qu'on est à la radio, enlevé les blancs, raccourci un peu les sons, mais c'était pour donner une idée aux auditeurs. On parlait à l'instant d'une pince qui aide beaucoup la vie d'Andrea. On voit avec vous, Yannick, qu'il y a beaucoup d'autres outils qui vont intervenir dans beaucoup de champs de vie de la personne. La relaxation, la méditation, ce sont aussi des outils que vous utilisez dans le cadre de la recherche.
C'est ça, donc on exploite vraiment les résultats des recherches qui se font d'un point de vue international Et on a vu que la TCC a du coup des vraies preuves d'efficacité, mais aussi la relaxation, ce qu'on appelle la mindfulness ou la pleine conscience. Et dans ce cadre-là, surtout pour les obsessions des participantes, donc les obsessions étant les idées qui viennent de façon intrusive, on a pu essayer de créer sur mesure des programmes ou des séances de mindfulness, de relaxation. Pour Andrea, c'était pour essayer d'utiliser les transports en commun, notamment le métro, qui était une situation angoissante pour elle, et puis vous pourrez peut-être vous en parler. Mais aussi pour d'autres participantes, où c'était des moments de comptage au moment de la douche, où cette personne-là comptait les zones qu'elle devait nettoyer. Et on a pu accompagner ce moment de douche vers quelque chose de plus relaxant, plus agréable, avec la voix de sa thérapeute qui a pu lui faire une séance sur mesure sur le temps qu'elle passait à prendre la douche. Donc ça, on a dû faire aussi des mesures, quand vous parliez de cartographie dans le temps, mais aussi avec des orthèses techniques ou technologiques, orthèse étant un soutien pour éviter l'effort cognitif. Donc lorsqu'une personne va compter 25 fois, lorsqu'elle va se laver l'aisselle, eh ben on va, ce 25 fois-là, on va le compter, on va le chronométrer, et ça va correspondre à une phase où la lumière va être rouge. Et pour l'inciter à changer de côté de son corps, on va passer à une lumière bleue, et elle n'aura plus besoin de compter, elle pourra seulement s'adonner au passage de lumière en fonction du programme qu'on a pu se lancer. Donc elle a aussi le choix du programme, elle peut faire une douche qui va durer 15 minutes, une douche qui peut durer 30 minutes en fonction de son humeur, parce que les personnes ne sont pas stéréotypées comme ça d'une journée à l'autre. Donc ça, c'était vraiment un programme sur mesure de domotique, donc ces systèmes technologiques qui vont pouvoir aider les personnes au quotidien.
Et on le voit, c'est très personnalisé et il n'y a aucune imposition. C'est-à-dire c'est une proposition qui est faite, un travail en commun. Alors Yannick disait que vous, André, vous avez pu tester aussi ces méthodes, ce dispositif, pour essayer de pouvoir prendre le métro, être plus à l'aise dans les transports en commun. Ça a marché, c'était une expérience positive, qu'est-ce que ça vous a apporté?
Oui, c'est-à-dire au début ça a marché, mais après le fait de devoir écouter tout le temps, j'étais un peu lassée, et puis d'entendre que j'ai des problèmes, que j'ai des tocs et tout ça, peut-être que ça m'a stressée un peu et j'ai arrêté. Mais par exemple, c'est vrai que ça m'a aidée sur le coup et j'ai gardé un peu l'information, c'est-à-dire qu'il faut se centrer sur d'autres choses pour éviter d'angoisser. C'est ça la technique que j'ai apprise, donc je le fais automatiquement dès que je peux. Et sinon, c'est vrai que, par exemple, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le petit robot aspirateur qu'ils m'ont donné, parce que qui nettoie tout seul. Et ça m'a fait un peu, parce que moi, il faut savoir que pour prendre l'aspirateur, je mettais des gants. Et pour moi, c'était comme si c'était un serpent qui touche partout, comme ça. Et quand il touchait ma jambe, je devais mettre l'alcool et des petites choses comme ça. Donc, le petit robot aspirateur, il allait tout seul. Et ça m'a beaucoup aidée à voir la maison. Ouais.
Et alors, je reviens juste un instant avant le robot, mais sur les voix enregistrées pour vous aider dans le métro. On est dans le cadre d'une recherche. Voilà. Tout ne marche pas du premier coup. Vous le dites très bien. Ça a peut-être pas réussi à 100% dans votre cas, mais c'est pas grave. Ça a généré derrière d'autres évolutions, d'autres réflexions. Et puis, ce qui marche pas pour vous va peut-être permettre aussi des évolutions pour en aider d'autres.
Voilà.
Et l'outil, en tout cas, et le travail de réflexion et de partage, lui, il fonctionne. On le voit, il fonctionne des fois avec des petits à-coups et puis il marche pas exactement comme on avait prévu.
Oui.
Mais ça vous a aidé à développer votre propre stratégie de réussite, de mettre en place vos propres outils.
Voilà, oui, tout à fait. Et puis ça m'a aidé aussi à commencer à prendre un peu plus de détente pour moi, puisque c'était de la relaxation. Et il faut savoir que cette maladie, elle fatigue beaucoup le cerveau. On est très fatigué parce qu'on est obligé de laver, de penser. Et même parfois, la nuit, je rêve que quelqu'un me touche et je commence à crier, ou que quelqu'un met des choses par terre et je commence à pleurer dans le rêve. Donc, on est systématiquement, le cerveau, il est très fatigué, et le fait de mettre en place ces dispositifs de relaxation, ça nous aide à nous de nous prendre soin un peu plus de nous, de masser le cerveau, de fermer les yeux et d'appréhender les choses avec plus de sérénité.
Un mot, mais le temps passe un peu trop vite. Un mot sur les objets connectés. C'est vrai que toutes les nouvelles technologies mobiles vont aussi être d'un apport considérable dans ce type d'intervention.
Exactement. On est vraiment dans une période de transition technologique avec des technologies un petit peu de rupture où on voit aussi qu'on est tous de la technologie à portée de soi, que ce soit son smartphone, sa tablette tactile. On avait deux intentions, c'est effectivement c'est un petit peu d'explorer les possibilités technologiques. Et au cours de la recherche, on s'est rendu compte, au contact des participants, que des fois, les solutions les plus simples, les solutions techniques, étaient beaucoup plus efficaces. Donc, on a pu proposer des pinces à long manche pour ramasser des objets au sol, notamment pour Andrea. Mais on a aussi pu proposer un sursiège à une participante qui ne pouvait pas s'asseoir sur son canapé faute de plis. Parce que le sursiège étant rigide, ça a augmenté un peu la surface de répartition du poids du haut du corps. Et du coup, il n'y avait plus de plis sur le canapé, ce qui lui a permis d'avoir une situation de repos. Repos qu'elle n'avait pas du tout dans son appartement. Et le repos étant du coup un facteur important de mieux-être et de qualité de vie, du coup, elle se sentait mieux et ça agissait positivement sur ses TOC. Donc ça, c'est les solutions techniques. On a aussi des solutions technologiques où on a pu, à l'aide d'ingénieurs informatiques, de programmateurs, faire des systèmes domotiques personnalisés. Donc c'est lourd en termes de temps, en termes aussi de ressources humaines et de compétences. Et c'est pour ça qu'on a fait aussi une plateforme participative avec un site qui s'appelle altotoc.fr où tous les participants, les internautes peuvent proposer des solutions qu'ils ont trouvées eux-mêmes en disant « bah tiens, j'ai trouvé une caméra qui se trouve sur tel site, qui coûte pas très cher. Cette caméra me permet de vérifier si ma porte est bien fermée, si mon frigo n'est pas ouvert ou si mon lave-vaisselle s'est bien arrêté à l'heure prévue. » D'autres vont dire « bah tiens, moi j'ai trouvé plutôt un capteur d'humidité qui me permet de ne plus penser au fait que mon lavabo puisse fuir et du coup d'avoir un risque d'inondation. » Donc ça, c'était vraiment intéressant aussi que la communauté puisse partager à la fois des solutions mais aussi des problèmes en disant « bah tiens, j'ai un problème, est-ce que quelqu'un a une solution par rapport à ça ?»
Est-ce qu'il y a une limite ? Est-ce que vous entrevoyez les limites de ce processus, de cette recherche ?
Bah, les limites sont plutôt vers des perspectives de développement. On est plutôt dans une approche de preuve de concept. Là, on voit que le concept est plutôt assez efficace avec des choses qui vont marcher en fonction des personnes. Les perspectives sont celles de développer le projet. C'est de s'y trouver quels professionnels vont pouvoir intervenir auprès de ces participants parce que là, ce qui est existant, c'est plutôt une thérapie de type TCC, donc en cabinet d'un psychothérapeute ou d'un psychiatre, ou à l'hôpital, et c'est aussi déconnecté du quotidien des personnes, donc savoir qui pourrait intervenir à domicile, donc ça pourrait être tout à fait des psychiatres qui viendraient faire une séance à domicile, et on a vu dans le métier d'ergothérapeute aussi un agent, un professionnel tout à fait efficient, pertinent pour pouvoir faire ce travail-là, à la fois d'intervenir à domicile, mais aussi de cartographier, d'évaluer à domicile les troubles liés au TOC.
Et donc, l'idée pour AltoTOC, ça va être de formaliser ces modèles d'intervention, de les partager au plus grand nombre, de redonner espoir à des personnes comme vous, Andrea, qui vivaient difficilement avec ces TOC et qui vont vivre, on le souhaite, de mieux en mieux, mais c'est déjà le cas, ça va déjà mieux. Merci beaucoup, en tout cas, tous les deux. Merci pour ce témoignage. Merci pour ces explications sur la recherche. Je rappelle, du coup, AltoTOC, vous l'avez dit, il y a un site qui est très bien fait, qui explique parfaitement le cadre de la recherche et sur lequel chaque auditeur est invité à participer, en tout cas, à mettre les solutions qu'on trouve soi-même, à partager, en tout cas, le partage qui est au cœur de la recherche. Et ça, c'est une bonne chose. Merci, évidemment, à l'OCIRP pour l'émission et à la FIRA. Vous pouvez retrouver aussi un complément d'information sur le site de la FIRA. Et puis, après ces au revoir, il me reste à dire que nous, on se retrouve très prochainement pour une présentation d'une revue littéraire élaborée dans le cadre du programme Autisme et Nouvelles Technologies. D'ici là, passez du bon temps à l'écoute de Vivre FM. Merci.
Merci beaucoup. Merci.